L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
Et oui, moi j'ai vraiment un rapport à la terre, et d'autant plus depuis que je suis revenue ici, je sens que c'était la terre qui a été travaillée par des générations et que je perpétue, et ça me donne une force. Je trouve que c'est assez fort depuis que je suis revenue ici. Alors je m'appelle Elisa Bousquet et j'habite à Saint-Étienne-de-Gourgas et voilà 5 ans que je suis revenue dans ce petit village pour rejoindre l'exploitation familiale. Donc mes parents ils sont agriculteurs ici depuis eux ça va faire plus de 40 ans je pense. Donc mes parents ils font pas mal de choses, mais petit à petit ils se sont spécialisés dans les olives et dans la luque notamment. Et donc là c'est vraiment le cœur du métier. Voilà, c'est la luque du Languedoc.
Dans 5 ans, ça veut dire que vous n'avez pas commencé votre vie professionnelle autour de la terre. Vous faisiez quelque chose avant et c'est un choix de reconversion, un choix de retour au village?
Oui, c'est un choix. C'est totalement un choix qui était à l'origine pas du tout conscient. J'ai fait mon enfance ici, une belle enfance, mais avec l'idée de partir, voilà. Et donc j'ai fait des études, notamment à Grenoble, en sciences. Et après, je suis allée à une école d'agro. Et oui, déjà, j'avais cette envie-là, mais sans savoir que j'allais revenir ici, voilà. Et donc c'était super, des super années d'études. Ensuite, j'ai travaillé dans une conserverie. Et puis j'avais envie de revenir vers la campagne. C'est un peu de fait, on est revenu ici avec mon compagnon, voilà, il y a 5 ans, et j'attendais un petit garçon. Voilà. C'est ça aussi qui nous a fait revenir vers la campagne, vers les racines.
Alors tout est de sa faute, à ce petit garçon.
Voilà. C'est grâce à lui, voilà.
Et alors en arrivant ici, du coup, il y a eu tout de suite l'envie de reprendre des parcelles pour exploiter la terre, pour faire une culture. Comment ça s'est passé en fait, votre arrivée ici ?
C'était vraiment un projet avec mon compagnon. On avait vraiment envie de créer quelque chose à partir de ce qu'il y avait autour de nous. Donc ici, ça permettait de... On avait pas mal d'opportunités puisque mes parents, ils avaient déjà monter quelque chose, donc ça permettait de partir sur des bases un peu plus solides, et donc notre imagination elle n'arrêtait pas, donc on a eu pas mal d'idées, et puis petit à petit ça s'est profilé en fonction de ce qui était possible de faire, et on a planté un verger de pommiers, un verger de poiriers et de cognassiers. Voilà, ça c'est le gros projet.
Donc on plante des arbres, mais il faut le temps d'avoir de la récolte, c'est pas les fraisiers ça.
C'est long, là on a planté nos pommiers il y a 2 ans, mais on a commencé à y penser déjà il y a 5 ans, donc le temps de demander aux pépiniéristes aussi des variétés qu'on souhaitait, etc. Il y a tout ce temps-là, et la première récolte va se faire cette fin d'année.
Pommes, poiriers, il y a des variétés spéciales ici, adaptées à la région en particulier ? Ancienne peut-être ?
Oui, on a essayé de trouver des variétés qui étaient adaptées au climat et à notre mode de culture, donc en agriculture biologique, et qui permettaient de vendre une gamme avec des pommes de toutes les couleurs. Et donc c'était pas facile hein, de trouver des variétés. On est parti sur 7 variétés, donc oui, c'est déjà pas mal. On a la rouge de Gourgas. Alors celle-ci, c'est le pépiniériste Martin Gomes, qui est notre voisin, qui nous a fait, en fait, c'est une variété qui est d'ici et qu'il a multipliée. Donc on est super contents d'avoir cette variété locale. qui est une petite pomme rouge et très très goûteuse.
Vous avez parlé d'agriculture biologique. Est-ce que les plants que vous avez achetés, déjà, c'était de bons petits plants biologiques,
hein? Alors, ça dépend des variétés. On a eu deux pépinières différentes. Il y avait des variétés qu'on ne pouvait pas trouver en bio. Donc, et celles-ci. Celles qu'on pouvait, on les met. Et celles qu'on n'a pas, on les prend en non biologique. Et ensuite, on les mène... Pour moi, c'est super. C'est la base, c'est pour respecter le sol, c'est respecter la terre, les insectes. Donc, du coup, on utilise des produits qui respectent tout ça. Voilà. Mais par exemple, on ne met pas d'engrais chimiques, c'est ce qui est quand même très polluant du sol. Donc, on va amener que de la matière organique. On met des traitements, c'est pas des insecticides, voilà, on va mettre des traitements qui vont vraiment être préventifs au maximum. Après, le pommier, il a quand même beaucoup de maladies possibles et inimaginables, donc on est toujours sur le qui-vive pour justement être dans la prévention, pour éviter, si la maladie arrive, on est mal.
Et voilà, quels sont les traitements si la maladie arrive justement? Qu'est-ce que vous utilisez?
Là, actuellement, on utilise du cuivre et du soufre. Et si la maladie arrive, on perd la récolte, en fait. Voilà.
Qui aime bien, nourrit bien. Comment vous la nourrissez, cette terre, pour qu'elle soit fructueuse?
Alors nous, on a de la chance ici. On a une terre très profonde et qui est très bien équilibrée au niveau nutrition. Donc déjà, on part sur de bonnes bases. Et donc ensuite, nous, on la nourrit avec du compost végétal et aussi de la fumure d'animaux. Donc c'est naturel, tout ça. Et oui, moi, j'ai vraiment un rapport à la terre. Et d'autant plus, depuis que je suis revenue ici, je sens que c'était la terre qui a été travaillée par des générations et que je perpétue. Et ça me donne une force... Je trouve que c'est assez fort depuis que je suis revenue ici.
C'est rigolo parce que de tout temps, les agriculteurs étaient fils d'agriculteurs, ils reprenaient la ferme de leurs parents, la terre de leurs parents, qui la tenaient de leurs propres parents, etc. Cette continuité, c'est ça que vous nous décrivez? Que vous ressentez?
Que je ressens, oui. Oui. Surtout que nous, c'est des générations, ouais. Comme vous dites, c'est les grands-parents des grands-parents. Enfin, depuis, on a remonté l'arbre généalogique sur Saint-Étienne, en fait. C'est des générations. Donc après, c'est vrai qu'ici, c'était agricole. Hein, donc tous les gens qui sont nés ici, qui vivaient ici, vivaient de l'agriculture, notamment de la vigne. Il y avait beaucoup de vignes ici. Et donc, toutes les maisons avaient des caves avec leurs cuves, on faisait le vin. Donc, tout ça, ça s'est perdu en deux générations, mais c'est vraiment ancré dans le village.
Et alors, vous parlez de votre rapport à la terre, mais vous êtes aussi confronté à la terre. Comment vous vivez finalement les contraintes de l'agricultrice que vous êtes?
Notamment la sécheresse, on l'a vraiment ressentie cette année, où il n'y avait pas d'eau, on a dû commencer à arroser au mois d'avril, donc c'était jamais arrivé. Il y avait de l'eau dans les rivières, mais il n'y avait pas de pluie, voilà. Donc on commence à la voir arriver, cette sécheresse, et c'est vrai que ça, c'est vraiment stressant dans notre métier, parce qu'on ne sait jamais de vers où ça va arriver, si ça va être la grêle, le gel, la sécheresse, les invasions, voilà. Et donc des maladies. Donc il y a cette incertitude.
Ça fait la beauté ou pas?
délicat. S'il n'y avait pas ça, ça serait bien aussi.
Comment vous en... Enfin, même si vous avez de l'eau, est-ce que vous êtes économe, non? Est-ce que vous essayez de quand même de la préserver, même si vous en avez?
Ah oui, bien sûr. Oui. Nous, on a mis un système de goutte à goutte qui permet de, justement de limiter la consommation en eau. Ouais, on va essayer de l'utiliser à bon escient. Par exemple, on arrose la nuit Pour éviter l'évaporation. Voilà.
Il y en a pour éviter l'évaporation, ils utilisent du paillage, c'est votre cas ?
Alors j'ai essayé, j'ai fait différents tests, notamment de la laine de mouton. Alors on sent que ça garde l'humidité. Après, c'est au niveau de la pratique culturelle, il y a quand même des plantes qui arrivent à pousser, donc il faudrait mettre vraiment des quantités énormes. Et ça paraît difficile à mettre en œuvre. Par contre, ça garde bien l'humidité, donc peut-être une pratique à
peut-être avec autre chose que la laine de mouton. Il y en a qui parlent de broyat, de paille, de paille.
De paille, oui. Ouais. Après, ici, on a difficilement des quantités de paille, alors il faut la mettre en place. Ouais. Je l'ai fait sur les cassis, notamment. On a mis...
première récolte de pommes, comment on vit en attendant la récolte ?
Alors, nous, au niveau de notre famille, il y a mon conjoint qui travaille à l'extérieur pour le moment. Donc c'est comme ça que l'on vit, que l'on se nourrit au quotidien. Et donc voilà, moi je travaille sur l'exploitation pour l'instant, qui les revenus sont essentiellement sur les olives. Voilà, qui permettent du coup de payer toutes les charges et les frais qu'on a dû mettre en place. Alors, on attend avec impatience la première récolte, notamment pour goûter toutes ces pommes. C'est en septembre-octobre.
Vous avez déjà prévu, là, comment vous allez vendre vos centaines de tonnes de récoltes ?
Nous, on espère vendre le maximum en direct. Du coup, on a un magasin sur l'exploitation. Et ensuite, on est dans deux boutiques de producteurs, Clermont-Lérault et à Millau. Et on espère aussi en vendre une partie comme ça. Et si par la suite, ça ne suffit pas, on a aussi des clients dans des magasins spécialisés, dans des magasins bio, des revendeurs. Voilà. On a déjà un réseau. C'est l'avantage aussi d'avoir déjà des produits et d'avoir une exploitation qui vit. C'est qu'il y a aussi tout le circuit de commercialisation qui était en place. Après, ça ne va pas forcément être la même chose puisqu'on est sur des fruits frais. Mais on a quand même des contacts, on a quand même des réseaux. Alors, on va les vendre telles quelles, à la coupe, et ensuite, on fera du jus. C'est aussi une manière de passer les pommes qui sont trop petites ou un peu abîmées, qui ne se conserveront pas. On les passe en jus de pomme. Alors, nous, on a des vignes, on fait du jus de raisin, actuellement. Donc, on a tout ça. Par contre, on n'a pas encore le broyeur à pommes. Donc, pour l'instant, on fera affaire.
Et beaucoup de jeunes qui se sont installés. Et comme on dit souvent... L'avenir, c'est la jeunesse qui l'apporte. L'agriculture a de belles journées devant elle, ici, à Saint-Étienne-le-Gourgas, apparemment. Comment vous le vivez, vous, ça, en tant que jeune ?
En tant que jeune, ça fait super plaisir, parce que c'est vrai que c'était un métier qui était en train de s'évanouir, et mes parents étaient un peu les piliers, je ne sais pas comment on pourrait dire. Tous les autres avaient disparu.
Tous ces jeunes qui sont arrivés, ils se sont installés.
Alors c'est super, mais il y a des difficultés énormes à l'accès des terres, et notamment parce qu'il y a une pression foncière énorme, et ça c'est une grosse difficulté. Et je pense qu'il y aurait encore plus de monde qui s'installerait si vraiment il y avait des possibilités d'acquérir la terre plus aisée.
Est-ce que les pouvoirs publics là-dessus, la SAFER ou d'autres organismes devraient être plus rigoureux, empêcher justement cette spéculation foncière et aider les jeunes agriculteurs à s'installer ? Parce que le foncier, c'est le problème.
Oui, le foncier, c'est le problème. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une aide et un encadrement pour améliorer l'accès à la terre. Parce que actuellement, s'il n'y a pas une aide et un accompagnement, il y a vraiment des difficultés. Parce que les particuliers ont vraiment du mal à céder leurs terres ou à prêter leurs terres à des agriculteurs. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a de l'appréhension sur la perte de propriété.
Est-ce qu'ils n'espèrent pas tous que ces terres deviennent constructibles et que le prix soit multiplié par 10 ?
Si, il y avait beaucoup de ça. Alors là, ça va se poser sur le village, puisqu'il va y avoir le plan local à l'urbanisme qui va être mis en place l'année prochaine. Et donc, les gens seront fixés sur leur terre. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait aussi ce côté-là où on espère pouvoir construire. Et s'il y a un agriculteur qui est sur le terrain, on est bloqué. Voilà. Mais pour revenir au conseil municipal, dont je fais partie, mais je suis la seule agricultrice. Et justement, je trouvais que c'était dommage parce que il y avait plus vraiment ce regard sur la terre. On est un peu trop éloigné de cette réalité rurale. Mais justement, je pense qu'il y a cette réalité et ce respect de la terre qui est transmis par les agriculteurs.
C'est une minorité, l'agriculture biologique. Est-ce que les consommateurs ont un rôle à jouer aussi ?
Les consommateurs ont un rôle à jouer et on voit actuellement qu'ils ont déserté les rayons bio. Et donc, ça n'aide pas du tout la filière, en effet. Donc oui, en tant que consommateur, on peut aider la filière en consommant les produits issus de l'agriculture biologique. On peut aider aussi la filière pour sortir du conventionnel, donc il faut qu'elle soit accompagnée. On peut en parler, parce que nous, notamment les LUC, on a un traitement qui est non bio. On n'est pas en bio sur la LUC, parce qu'on a une mouche qui attaque les olives, et actuellement, il n'y a pas de remède. Donc le choix, c'est soit d'arrêter la culture de la LUC, soit d'être en conventionnel. Donc des fois, on est aussi dans une impasse. Donc ça, il faut mettre des moyens, il faut mettre de l'argent pour faire de la recherche, pour surmonter ces impasses, ou bien mettre des moyens pour qu'on convertisse les agriculteurs sur une autre, comme vous dites, sur un autre mode de culture.
Et certains ont trouvé des solutions, phéromones, argile.
Il y a des démarches de phéromones, notamment avec des piégeages massifs. Donc ça, on est en train d'essayer de le mettre en place, notamment en Espagne, ils ont mis ça. C'était pas homologué en France. Alors donc là, c'est tout neuf. On attend les homologations. Ça a des résultats. Après, oui, nous on va tendre vers ça en tout cas. On va tendre. L'argile, on n'a pas, malgré les essais, ça a pas fonctionné.
Est-ce que le modèle économique est viable en fait pour la jeunesse qui veut reconquérir la terre?
Alors, c'est difficile de répondre actuellement à la question parce qu'on n'a pas encore la première récolte. Nous, on espère pouvoir en vivre. Sur le tableur Excel, on peut. Voilà. Donc, tout va dépendre des aléas que l'on va rencontrer. Et je pense que c'est un métier qui est viable si on est dans des circuits de distribution qui permettent de valoriser le produit, et si on transforme aussi une partie sur place, voilà, il faut vraiment trouver des systèmes pour que l'exploitation soit viable. Voilà, par exemple, la pomme, si on vend des coopératives, le prix de la pomme est très faible. Et si on le vend en direct, on a une plus-value qui permettrait de pouvoir en vivre sur des petites surfaces comme les nôtres, hein, j'entends. Parce que nous, on est sur des surfaces, on a 2 hectares de pommiers. Donc le modèle, est-ce qu'on peut vraiment revenir sur ce modèle-là avec aussi on a actuellement des vies quand même aisées, on a des besoins très conséquents qui n'existaient pas. Moi, mes grands-parents, ils avaient le linge dans la pile, l'électricité c'était vraiment que quand il fallait, il n'y avait pas l'eau chaude, je ne sais pas, c'était pas la même vie, donc...
Vous attendez avec impatience cette récolte, première récolte de pommes ?
Oui, oui, oui. Là, ça sera un peu le. On atteint la première étape après avoir planté tous ces petits arbres. On les voit pousser et puis après le premier fruit, c'est la première étape.
Des perspectives à venir pour votre exploitation ?
Oui, alors nous, on est au tout début, donc on a plein de souhaits, notamment de faire un magasin un peu plus, pour pouvoir accueillir plus de monde sur place. On aime beaucoup avoir cette proximité avec les gens, le retour, et puis ça permet aussi de rencontrer les gens du village. Moi, je trouve que c'est une position assez chouette de vendre sur place. Voilà, on a l'impression de faire partie du tissu social. et de participer. On voit qui on nourrit. Voilà.
C'était Elisa Bousquet, un portrait d'agricultrice réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, tous les podcasts sur rphfm.org.